Figitus, figitus, zombre capon.
Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait taille à lutter.
Un peu de zat. De grève.
Pilote sans qu'on crève, de faim, de froid, de tout, autour faire la grève.
Du gaz de schiste.
Exploitation de gisements de gaz de schiste.
Du logement.
Toi,
du féminisme. Bon bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Avec les membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
On a demandé de marquer un sport en guerre. On aura pu rajouter d'autres termes hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Et bonsoir, vous êtes dans le Canu Info du vendredi soir. J'ai l'impression que quelqu'un a mis de la réverb sur ma voix. C'est pas hyper sympa. Je sais pas où elle est. C'est pas grave. Vous êtes donc dans le Canu Info du vendredi soir du 19 mars. Mais alors, de quoi on va parler ce soir?
D'abord, on va parler d'un week-end de mobilisation pour un logement digne pour tous et toutes.
Et ensuite, on va revenir sur toutes les mobilisations de ce week-end, parce qu'il y a un gros week-end à Lyon, avec tout d'abord une cantine solidaire en soutien aux occupations du TNP Villeurbanne et de l'Opéra de Lyon.
Ensuite, on va parler du le printemps des libertés.
Ça serait une manif contre la loi de sécurité globale. Et ensuite, il y aura du coup dans la même après-midi une manif de soutien aux Kurdes.
Et enfin, une manif contre la loi séparatisme et islamophobie.
Et ensuite, on passera au national. On verra comment Olivier Dassault est mort parce qu'il n'a pas voulu salir ses chaussures.
Ensuite, on verra une ZAD menée par des étudiants en agronomie à l'AgroParisTech.
Et bien sûr, le Canu Info du vendredi ne serait pas le Canu Info du vendredi sans sa rubrique internationale. On ira en Suisse où une manif de soutien aura lieu à la ZAD de la Colline le 26 mars.
Et ensuite, on ira en Grèce, où le confinement, les mobilisations contre les violences, policières, une situation plus qu'explosive.
Et bien sûr, un petit rappel de l'agenda pour finir, et un ACAB. Si vous avez envie de nous envoyer un ACAB, vous pouvez nous appeler au 04. Attends, je rebranche le téléphone, parce que si les gens appellent, mais que le téléphone n'est pas branché, ça marche pas. C'est le 04 78 39 18 15, 04 78 39 18 15, pour nous appeler dans le studio et nous proposer un ACAB. Mais tout de suite, on reçoit les copains et les copines de la CAL.
Mes amis, assez de différence. C'est la guerre. La guerre de défense contre la misère qui attaque l'univers.
Il y a quelque chose de dangereux dans la réquisition. C'est des petits raccourcis, ça paraît tellement évident, mais c'est pas une réponse structurelle, donc je suis pas extrêmement favorable.
On n'a jamais vu la réquisition être la réponse à la question du manque de logement, vous le savez très bien.
C'est-à-dire qu'on raisonne hiver après hiver sur les bâtiments publics qui pourront être réquisitionnés.
C'est pas en cachant la misère sous le tapis que c'est ça.
Ah, écoutez, moi j'ai été ministre du logement.
Chez moi, il n'y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
La question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps.
Ensemble, nous avons à détruire la misère et agresse la planète entière.
Et oui, dans le Canu Info du vendredi, nous sommes donc avec la CAL. Mais qu'est-ce que c'est que ça, la CAL?
On est là pour vous parler un petit peu du week-end de mobilisation que l'on organise du 26 au 28 mars prochain. Ça s'intitule Un logement digne pour toutes et tous, mais avant ça on va vous présenter un petit peu qui on est. Du coup la CAL, ça veut dire la Coordination d'Action pour le Logement Lyon et Environ. C'est un collectif qui s'est créé récemment dans le but de coordonner différents militants, militantes, différents collectifs de lutte sur la question du droit au logement et contre le mal-logement. C'est notre premier gros, on va dire, week-end de lutte, mais ça a vocation, bien sûr, à pouvoir se généraliser, pouvoir se refaire dans le temps. Et bien sûr, on appelle tous les autres collectifs avec lesquels on n'est pas forcément en contact à pouvoir nous contacter pour pouvoir justement créer cette mobilisation qui se veut un peu pérenne et si importante, quoi. Sur le week-end de lutte du coup du 26 au 28, effectivement on n'est pas tout seul et toute seule. On est en relation notamment avec plusieurs collectifs qui nous aident à préparer un petit peu le week-end. Et on peut en citer quelques-uns comme Hébergement en danger, il y a des syndicats comme CNL, FSU, mais aussi on est aussi en lien avec l'Intersquat et avec d'autres militants et militantes.
Est-ce qu'il n'y a pas le CSP aussi ?
Effectivement, il y a le CSP que j'ai oublié.
Et du coup, j'ai l'impression que ce week-end, il s'inscrivait dans un appel à mobilisation européenne.
Ouais, c'est ça. Le contexte du week-end, effectivement, c'est que la journée du 27 mars, elle s'inscrit dans un appel européen qui est lancé par une commission européenne, je ne me rappelle plus laquelle c'est. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de choses en tout cas, qui vont être faites dans différentes villes en France et en Europe. Et effectivement, à Lyon, on a décidé de justement... marquer le coup aussi et faire quelque chose d'un petit peu plus large qui se déroule du coup sur 3 jours, mais on aura l'occasion de vous en dire un peu plus.
C'est une date symbolique aussi puisque c'est la fin de la trêve hivernale traditionnelle, donc là qui a été prolongée à cause de la crise sanitaire. Mais voilà, le 31 mars normalement c'est la fin de la trêve hivernale.
Mais du coup, est-ce que vous avez une idée un petit peu des chiffres du nombre de personnes qui sont à la rue à Lyon, en France
Alors apparemment pour la métropole, on compte au dernier recensement 24 000 logements vides et c'est à peu près 9 000 personnes qui font des demandes d'hébergement d'urgence. Dans le Rhône, c'est 1363 personnes par jour, soit jusqu'à 83% des appels qui restent sans solution d'hébergement. En 2020, donc là c'est pour la France entière, 100 000 attributions HLM sont en moins par rapport aux années précédentes, ce qui rallonge les délais d'attente de plusieurs années. Donc ça c'est pour montrer aussi que la situation s'aggrave, et notamment à cause de la situation sanitaire. En 2020, c'est aussi 5 millions de personnes, soit 8,2% de la population, qui vit dans un logement suroccupé. Donc, ce qui pose aussi évidemment des problèmes de surexposition au virus. Et comme les chiffres du chômage, le nombre de bénéficiaires du RSA ne cesse d'augmenter, et bien forcément, ça s'aggrave. Est-ce que j'ai d'autres chiffres dans l'appel ?
On vous rappelle que l'appel est disponible sur Rebellion, pour que vous ayez un petit peu plus effectivement le contexte de la mobilisation de manière générale et effectivement du constat en chiffré sur la métropole et sur le national, quoi.
Et on imagine en ce moment que du coup il y a du coup une espèce de crise sanitaire finalement. Est-ce que ça n'amène pas une aggravation pour les personnes à la rue et pour les personnes précaires en général ?
Si, forcément. Je sais pas si...
Bah effectivement, on s'est rendu compte avec la crise sanitaire que l'État a pu proposer énormément de solutions d'hébergement, mais que pour beaucoup de personnes, ça n'a pas pu être le cas. Et en plus de cela, effectivement, en plus du contexte qui est compliqué en termes de vie précaire ajoutée à cette crise sanitaire-là, Il y a toujours ce sursis avec la trêve qui est effectivement prolongée au 1er juin, mais avec énormément d'expulsions qui sont prévues, notamment de squats, mais aussi d'expulsions locatives. Donc ce contexte-là, lui, n'a pas changé en fait.
Et ce qui s'est passé aussi à la fin du confinement dernier, c'est qu'il y a eu effectivement pas mal d'aides à l'hébergement qui ont été proposées, ce qui prouvait aussi que voilà, l'État était capable de débloquer des budgets. C'est des solutions qui ne sont pas du tout pérennes. Voilà, on demande que, donc, des solutions plus pérennes et ce déblocement des budgets pour un hébergement digne pour toutes et tous.
Et du coup, est-ce que j'ai l'impression que souvent les squats, du coup, ça se passe dans des bâtiments publics, dans des bâtiments liés à la métropole, mais est-ce que du coup, avec cette nouvelle métropole, il y a un changement de politique ?
Alors c'est un peu compliqué, la situation est un peu ambivalente. Il y a effectivement des propositions de conventionnement avec quelques bâtiments. Donc les propriétés, on parle là des bâtiments propriétés de la métropole. Mais il y a aussi en parallèle la métropole continue à attaquer en justice les squats et à faire aussi appel à des décisions favorables. Donc quand un squat a, par exemple, gagne 2-3 ans de délai auprès de la justice, eh bien là, depuis la nouvelle mandature de la métropole, on a aussi ils font appel à ces décisions.
Et on rappelle juste qu'un conventionnement, pour les personnes qui ne sont pas forcément au fait, c'est effectivement un accord entre le propriétaire, dans ce cas c'est la métropole, et les occupants et occupantes du bâtiment, pour pouvoir définir effectivement une période durant laquelle ces personnes pourront rester.
Puis il y a aussi des situations un peu difficile où quand c'est des logements, quand c'est des bâtiments de bailleurs sociaux, notamment de bailleurs sociaux de la métropole, il y a aussi des situations de harcèlement et de les pousser un peu à bout. Donc voilà, c'est une intrication de procédés compliqués. Après, effectivement, on peut pas nier que la situation est quand même bien meilleure que sous le mandat de Colomb, mais en même temps, c'était pas bien compliqué.
Et juste pour faire une petite pointe effectivement de rappel sur les squats dont on a connaissance, c'est-à-dire les squats qui sont assez importants. Il y a environ dans la ville de Lyon et Villeurbanne, je pense donc sur la métropole de Lyon, il y a environ 6 à 800 personnes qui sont dans ces lieux-là, mais ça ne concerne pas du tout les autres petits lieux dont on n'a pas connaissance en fait. Donc ça concerne quand même énormément de personnes, quoi.
Et voilà, et un grand nombre de ces squats sont concernés par des fins de délai là, accordées par la justice. Je pense notamment à Fézin, où il y a quand même 150-200 personnes. Le dur à cuire aussi à Caluire, qui est expulsable bientôt. Donc Fézin est expulsable en juillet, le dur à cuire un peu plus tôt. Voilà.
Il y aurait un squat à Villeurbanne, par exemple, l'illégalité, qui serait expulsable bientôt aussi.
Ouais, voilà, l'illégalité, donc un des squats dans lesquels est censé se dérouler ce week-end de lutte a en effet eu, donc on a eu donc l'illégalité a eu dernièrement la décision de jugement, donc il est expulsable sans délai, sans même de trêve hivernale. Voilà.
Et on rappelle aussi qu'effectivement, on aimerait bien souligner l'importance de l'existence de ces lieux de lutte là. Notamment pour faire valoir la nécessité d'avoir un logement et non un hébergement, ou alors de créer des espaces où l'on puisse s'organiser librement et lutter en fait.
Parce que évidemment que le squat c'est pas une fin en soi, c'est un outil d'hébergement alternatif et de lutte, mais évidemment ce qu'on veut pas, on veut un logement pérenne et digne, bien plus large que ça, mais voilà, le squat est... Et aujourd'hui, parfois et malheureusement, la seule alternative pour beaucoup de gens. Notamment les personnes dont les situations administratives peuvent être compliquées.
Et du coup, ce week-end, alors, ça va être quand ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment on fait pour venir ? C'est où ?
Donc ce week-end, donc le moment le plus important, c'est évidemment la manif du samedi 27. Donc avec un rassemblement à midi, à Sans Souci, à côté du métro. Et un départ de manif à 14h, tous ensemble. Mais on a aussi voulu visibiliser un peu ces lieux qui font vivre cette lutte pour le droit au logement et aussi pour les solidarités de quartier, donc l'espace communal de la Guillotière et l'illégalité, sous réserve évidemment qu'il n'y ait pas d'expulsion entre-temps, mais normalement, Voilà. Et puis ce sera une bonne occasion aussi de montrer le soutien pour ce lieu qui est très important. Et aussi au squat de la Maison Sans Souci, où il y aura notamment un petit atelier bricolage et un petit déj avant la manif. Donc on vous invite à venir dans ce super lieu. Voilà, donc une projection à l'ECG le vendredi soir, la manif le samedi, très important. Le dimanche, du coup, il y aura une session de formation juridique sur le droit au logement à l'ECG, l'après-midi. Et à l'illégalité, une après-midi avec des crêpes, un reportage, des témoignages, plutôt axé sur la difficulté du logement à Villeurbanne et à QC, puisque c'est le but du lieu, c'est aussi d'être un lieu de quartier. Mais vous trouverez les détails de ce programme sur la page Facebook de la CAL, notamment, sur Rébellion aussi, je pense qu'il y a.
Et si jamais, effectivement, vous avez des questions, vous pouvez toujours nous joindre sur le mail cordeau-logement69@riseup.net. Et je voulais juste peut-être compléter un petit truc. S'il y a des personnes, effectivement, après la manif, qui sont intéressées par avoir des infos sur les différents lieux de lutte ou sur les différents lieux de squat, il y a quelque chose qui se passe à l'ECG, en fait, juste après la manif, et qui sera de l'ordre d'une cantine avec une sorte de petite table info, quoi, où en fait vous pourrez discuter avec les habitants, habitantes des différents lieux, et où il y aura des infos plus précises si jamais vous voulez filer la patte ou quoi.
Mais ce week-end de mobilisation, il n'est pas axé que sur les squats. On a aussi envie de parler vraiment assez largement de la question du mal logement, et ça embrasse vraiment plein de situations différentes. L'après-midi organisé à l'illégalité a vocation notamment à mettre potentiellement des personnes en difficulté en lien avec des associations qui peuvent les aider, ou des collectifs ou des organismes. Voilà, on espère que ça, ce genre de choses puisse fructifier. Et du coup, on le rappelle, on aimerait que ça prenne de l'ampleur, et pour refaire une mobilisation à la fin de la trêve hivernale prolongée, donc fin mai. Et donc on a envie de vous rencontrer à cette occasion-là pour fabriquer ça tous ensemble.
Ouais, l'idée, en fait, c'est de pouvoir essayer de généraliser un petit peu l'organisation des week-ends de lutte pour favoriser la rencontre entre les différents collectifs qui luttent par rapport au droit au logement. Et effectivement, nous, on est issus du milieu squat, mais on appelle tous les collectifs de lutte autres à pouvoir nous contacter ou nous rencontrer, effectivement, durant ce week-end-là dont on parle, du 26 au 28, pour qu'on puisse échanger et pérenniser un petit peu la mobilisation par rapport au droit au logement, quoi.
Trop bien, vous voulez rajouter quelque chose ou pas?
On vous attend.
Eh ben ouais, super. Donc on retrouve le programme sur Rébellion, la manif, c'est le samedi. Et si jamais on veut plus d'infos, il y a un Facebook de la CAL, ça s'écrit CA2LE.
Tout à fait.
Super.
La CAL.
Ou la cahier.
Ok, eh ben merci beaucoup. À la prochaine.
À la prochaine.
Merci.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
smart. Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Vous voyez bien, la précarité n'est pas minimale à Lyon. Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous jugez en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes, en chantant résiste.
Et oui, dans le Canu Info du vendredi, on ne s'arrête pas parce qu'on veut vous dire que oui, le week-end prochain, il y a une manif, mais ce week-end, déjà, il y a plein de manifs. Ça commence, et ben déjà, demain midi.
Demain midi, oui, il y a une cantine solidaire en soutien aux occupations du TNP à Villeurbanne et de l'Opéra de Lyon. Les travailleurs et les travailleuses de la culture sont en lutte depuis plusieurs jours et dans des nombreux lieux culturels qui sont occupés partout en France pour dénoncer le traitement subi par les professionnels de la culture, les chômeurs et les chômeuses et toutes celles et ceux qui subissent la pression infernale de Pôle emploi. Du coup, à Villeurbanne, le TNP, donc le Théâtre National Populaire, est occupé depuis vendredi 12 mars. À Lyon, l'Opéra est occupé depuis lundi 15 mars. Et donc la cantine aura lieu à l'ECG, qui est l'espace communal de la Guillotière, qui donc les soutient. Et ce sera à partir de midi à l'annexe, qui est donc au 27 rue Salomon-Reinach. Et ce sera l'occasion de soutenir le mouvement et de venir discuter de la lutte autour d'un repas et de petites surprises.
Canu Info du vendredi.
Vous avez un emploi, monsieur Lebowski?
Permettez-moi de remettre les pendules à l'heure.
Commandant,
c'est toujours là. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même, incroyable.
Et du coup, après avoir bien mangé, il va falloir un peu vite, parce que la mobilisation d'après, elle se trouve place La Jargouzon à Villeurbanne. Alors La Jargouzon, c'est la place des gratte-ciels, hein, on l'appelle nous comme ça, quoi. Mais du coup, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a du coup le Printemps des Libertés épisode 3, en lien avec une marche vérité justice. Du coup, c'est dans le cadre de la Journée internationale contre le racisme et les violences policières, carcérales et judiciaires, du coup, à l'appel du réseau d'entraide Vérité et Justice, mais aussi le collectif Non à la loi de sécurité globale, et avec l'association des victimes de crimes sécuritaires. Donc le départ, c'est au TNP occupé, on vient de le voir, pour réclamer justice et vérité pour les familles de victimes et surtout dire stop à l'impunité et à la loi sécurité globale qui a pour objectif de la sceller. Donc après avoir interdit, donc on se rappelle samedi dernier, du coup il y avait eu la volonté de faire déjà le Printemps des Libertés numéro 2 et du coup la manif elle a d'abord été interdite, puis déplacée sur la place Jean Massé histoire de l'invisibiliser et ensuite elle s'est retrouvée finalement place Bellecour mais sans concert. Et du coup, le collectif Non à la loi de sécurité globale ne désarme pas et continue de s'élever contre les lois et décrets liberticides que le pouvoir veut imposer à un peuple souffrant déjà durement des conséquences d'une crise sanitaire désastreuse, lui offrant comme seule réponse l'arbitraire de l'état d'urgence permanent, la surveillance généralisée et la matraque. Donc, plus que jamais, nous devons nous mobiliser contre la loi de sécurité globale, mais aussi contre les pressions politiques de policiers qui se présentent en uniforme et en plein couvre-feu devant les domiciles d'élus ou les tribunaux. Et puis surtout parce que les habitants et habitantes des quartiers populaires ont expérimenté les premiers, les atteintes multiples et répétées aux libertés, conduisant aux violences policières. Donc du coup, on vous appelle à vous rendre demain devant le TNP à 14h pour le Printemps des Libertés numéro 3 et du coup la marche Vérité et Justice.
Et donc le même jour, donc demain 20 mars, il y a aussi Place Bellecour à 15h, un rassemblement pour soutenir les Kurdes. Depuis plusieurs semaines, Erdogan multiplie les agressions militaires en Syrie et en Irak. Et si les Kurdes sont les premières et premiers visés, le pouvoir turc cherche à éradiquer toute forme de résistance et d'autonomie politique, démocratique à ses frontières. En Turquie, la répression contre toutes les formes d'opposition n'a jamais cessé. Et le Rojava est en danger. Depuis maintenant plusieurs semaines, il subit les assauts des renforts islamistes de l'armée turque au nord-ouest d'une ville kurde de Dain Issa. Et si les forces démocratiques syriennes résistent pour le moment à ces assauts, l'ensemble du Rojava est sous la menace prochaine d'une intervention directe et massive de l'armée turque. Le régime syrien en profite de son côté pour tenter de reprendre l'avantage dans la région en multipliant les provocations et les affrontements avec les forces kurdes au sein de plusieurs villes. Et en plus, dans le même temps, le Daesh ressurgit à Deir ez-Zor et dans les zones d'occupation turques et multiplie les attaques. En Turquie, la répression continue plus que jamais. L'État continue de persécuter les journalistes indépendants et les députés du Parti démocratique des peuples. 79 journalistes, qui sont majoritairement des Kurdes, ont encore été arrêtés en Turquie en 2020. Et 24 d'entre eux ont été emprisonnés. En plus de ça, ces jours-ci, Erdogan a décidé de mettre au pas l'université du Bosphore. C'est une université prestigieuse qui est réputée pour la défense de la démocratie en son sein et le respect de la multiculturalité, dont profitent en particulier, mais pas uniquement, les étudiants et étudiantes kurdes. Elle s'est vue imposer la nomination par Erdogan d'un nouveau recteur qui est membre de l'AKP, un parti conservateur. Dans le cadre de ce qu'il appelle une réforme totale de l'enseignement, c'est-à-dire une mise au pas du système éducatif, le dictateur, sur 27 des derniers recteurs promus, il en a nommé 20 par décret, et tous membres de ce même parti, donc l'AKP. Face à cette volonté de mise au pas, les étudiants, étudiantes et professeurs ont exprimé leur refus par des pétitions, manifestations, des manifestations qui se poursuivent encore aujourd'hui. Et depuis le 6 janvier, ce sont plus de 160 étudiants et étudiantes qui ont été arrêtés, alors que le MHP, qui est un parti de l'extrême droite nationaliste allié d'Erdogan, appelle à écraser la protestation. En Irak, l'armée turque mène une guerre d'invasion. Depuis plusieurs semaines maintenant, et la Turquie se livre à des bombardements criminels sur la région yézidie de Sinjar. Parallèlement, l'armée turque mène une véritable guerre d'invasion visant le Kurdistan irakien en menant des opérations aériennes et terrestres contre les bases militaires du PKK à Agar, qui est le parti des travailleurs du Kurdistan. Dans cette nouvelle guerre, Erdogan n'a pas hésité à employer des gaz chimiques. Donc plus que jamais, les Kurdes et toutes les formes progressistes et révolutionnaires ont besoin de la solidarité internationale. Donc rassemblement demain, le 20 mars à 15h, place Bellecour.
Canu Info du vendredi.
Vous avez un emploi, monsieur Lebowski?
Permettez-moi de remettre les pendules à l'heure.
Commandant, c'est toujours là. On n'est pas là pour philosopher et carpentier.
Quand même, incroyable.
Et du coup, après ce samedi un peu fatigant, eh ben, y a une dernière manif qui sera dimanche. Je vous rassure, on vous rappellera tous les rendez-vous à la fin du Canu Info, pour vous, si jamais vous n'avez pas eu le temps de noter. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, dimanche, c'est qu'il y a une nouvelle manifestation contre la loi islamophobe et liberticide qu'on appelle loi sur, enfin, contre le séparatisme. Alors ouais, c'est ça. Ils n'ont pas changé de nom, mais je crois que c'était plus la loi contre le séparatisme, c'était peut-être pour la laïcité ou je ne sais plus quoi. Mais en gros, du coup, il y a un large rassemblement d'organisations qui appellent à manifester dans toute la France. Et du coup, cette manifestation à Lyon, elle se déroulera dimanche à 14h, place Bellecour. Du coup, ces organisations... On fait du coup le constat amer qu'une fois de plus l'islamophobie est mobilisée au plus haut sommet de l'État avec du coup ce projet de loi contre les séparatismes qui dans les faits est précisément une loi séparatiste et raciste. Et ben oui, pourquoi? Parce que avec un cynisme démesuré, le gouvernement du coup instrumentalise le terrorisme, ses victimes et nos émotions pour faire de chaque musulman et musulmane un ennemi de l'intérieur. Du coup, on commence par de la chasse à de prétendus ce qu'ils ont appelé là les signaux faibles. À la focalisation du coup un peu avant sur le port du foulard, à travers une pluie d'amendements dans ce projet de loi. Et du coup, en fait, c'est la vie, la coutume, les coutumes et les pratiques et la foi des musulmans et des musulmanes qui sont épiés, traqués, disséqués, essentialisés, stigmatisés, infériorisés. Donc en fait, on crée un statut de sous-citoyenneté qui permet des perquisitions en dehors de tout cadre judiciaire, des perquisitions qui en fait du coup sont en réalité complètement inefficaces, mais en fait servent surtout les pouvoirs publics pour donner un signal en fait. Et donc le signal c'est quoi? C'est terroriser une partie de la population, mais aussi donner des signaux à l'électorat, parce qu'en fait c'est vraiment la question de toutes ces lois en fait, c'est de pouvoir amener des électorats qui sont sur des positions islamophobes à voter pour eux. Donc du coup c'est vraiment juste un calcul politique et il n'y a aucune efficacité entre guillemets contre le terrorisme, c'est juste des lois sécuritaires qui sont racistes et qui vont augmenter les perquisitions et les... le racisme de la police, de la justice et toutes ces choses-là, quoi, finalement, quoi. Et en fait, pourquoi? Parce que le gouvernement, en fait, par ailleurs, il instrumentalise les inégalités de genre qui sont structurelles dans notre pays et qui ont rien à voir forcément avec la foi musulmane et qui traversent tous les espaces sociaux, y compris ceux du pouvoir. Et là, du coup, en fait, le gouvernement les utilise pour les hypertrophier, du coup, les inventer dans les seules pratiques liées à l'islam. Donc, en fait, faisons comme s'il n'y avait que du sexisme dans l'islam et pas dans toute la société. Et surtout, le gouvernement, en faisant ça, il fait complètement fi de la parole et du vécu des premières concernées, donc du coup, des femmes musulmanes. Et tandis que, d'un autre côté, il organise l'effacement total des femmes musulmanes en remettant complètement en cause leur droit à la parole, en les victimisant, mais en leur refusant de porter le voile dans l'espace public. C'est complètement effacer leur volonté propre et leur parole, d'imaginer qu'elles puissent décider par elles-mêmes ce dont elles ont envie. Donc, et alors aussi, il y a tout un truc où ce projet de loi, en fait, il s'attaque aux droits des associations et pas forcément celles qui relèvent du cultuel. En fait, il exige de la part des associations du coup, qui se revendiquent de confession musulmane un contrat d'engagement républicain. Donc en fait, là, c'est partir du principe que ces associations, par essence, du coup, seraient non républicaines parce que c'est une association qui est musulmane, elle ne respecterait pas la loi républicaine. Et du coup, c'est complètement l'inverse qui se passe. Et du coup, ça va donner le droit à n'importe quel préfet de dissoudre n'importe quelle association selon sa propre volonté, et aussi du coup de couper toute subvention, de leur refuser leur agrément, et puis de s'opposer aussi à l'embauche de contrats jeunes au sein de ces associations, du coup, ce qui vont les mettre gravement en difficulté. Et donc ça, Et ben pour ces associations-là, ça remet en cause leur liberté d'expression et ben du coup ça les amène assez facilement à la désobéissance civile et du coup et ben leur désobéissance civile, elle sera interprétée comme un trouble à l'ordre public et du coup il sera répréhensible, judiciarisable et du coup et ben toutes ces associations appellent à rejoindre le front contre l'islamophobie et pour l'égalité de droits de toutes et tous et du coup il y aura une manifestation à Lyon dimanche à 14h place Bellecour et plein d'autres de partout en France. Donc ça, c'était pour le programme du week-end. Yavar, on vous rappellera le programme du week-end à la fin du Canu Info, mais tout de suite, on passe au national.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a d'un côté un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et oui, parce que dans le monde, il se passe pas que des choses tristes, il se passe aussi des choses amusantes ou pas. En tout cas, moi, ça m'a fait un petit peu rigoler, je suis désolé, c'est pas très gentil. Mais au demeurant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Olivier Dassault est mort. Sur le moment, quand on m'a appris Olivier Dassault est mort, je me suis dit, bon, bah, Olivier Dassault est mort, je l'aimais pas tellement, c'était quand même plutôt une des plus grosses fortunes françaises, et puis surtout une des plus grosses fortunes de l'armement. C'est à cause de lui qu'il y a plein de gens qui meurent dans le monde tous les jours, et c'est pas du tout, entre guillemets, un camarade, a priori, Olivier Dassault, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de se réjouir de la mort de quelqu'un, même si c'est le plus immonde des bâtards. Et ben, au demeurant, Olivier Dassault, donc c'est le fils de Serge Dassault, on s'en fout un peu ça, mais du coup il est mort dimanche dernier, à l'âge de 69 ans. Il n'est pas mort dans son lit, il n'est pas mort de coronavirus, il n'est pas mort d'un cancer, il est mort du crash de son hélicoptère. Et oui, parce que Olivier Dassault, il se balade en hélicoptère. Voilà, du coup moi j'ai peur de me crasher en vélo, mais pas en hélicoptère. Mais Olivier Dassault, lui, il peut mourir d'un crash d'hélicoptère. Et alors ça déjà, bon, on se dit, bon bah pas de bol, hop, ton hélicoptère il s'est crashé. Mais pourquoi il s'est crashé son hélicoptère, Olivier Dassault? Et ben déjà, il faut savoir que Olivier Dassault, il décollait à 18h. Donc en fait il a un hélicoptère rien qu'à lui le gars, et puis il décolle à 18h. Du coup, je vous rappelle qu'il y a un couvre-feu à 18h. Du coup, le mec il part en hélicoptère à 18h, alors même que c'est complètement interdit, que tout ça, lui, il se permet de faire ça. Et ben, c'est embêtant parce que du coup, l'hélicoptère s'est mangé un arbre. Et vous me direz, c'est un peu bizarre quand même qu'un hélicoptère se mange un arbre comme ça au milieu d'un endroit fait pour décoller. Et ben, c'est parce que justement, l'hélicoptère, il n'était pas exactement à l'endroit fait pour décoller, qui du coup, un endroit, bon, ça. Dans le truc que je suis en train de dire, ça s'appelle une dropping zone. C'est une aire d'atterrissage ou de décollage. Enfin bon, bref, c'est un endroit où on a enlevé les arbres pour éviter ce genre de problème. Sauf que Olivier Dassault, il n'avait pas envie de se mettre dans la dropping zone, dans l'espace exact, parce qu'il y avait plein de boue. Et du coup, il a demandé au pilote de se poser un tout petit peu à côté pour pas qu'il s'abîme, ses chaussures, quoi, qu'elles soient pas toutes sales. Et du coup, pas de bol. L'hélicoptère s'est pris dans un arbre et du coup l'hélicoptère a explosé. Donc on pourrait se dire bien fait pour lui, il était tout seul tout ça, et ben ouais, mais c'est que Olivier Dassault il a un hélicoptère mais il sait pas le conduire. Par contre il paye un gars pour le conduire et qui est un pilote, et du coup ce gars là aussi il est mort quoi. Du coup voilà, la prochaine fois que vous utilisez votre hélicoptère, faites un petit peu gaffe où vous vous posez, ou alors prenez des chaussures salissantes quoi.
Et donc après les chaussures de Olivier Dassault, on va aller en Île-de-France et plus précisément dans les Yvelines, où des étudiants et des étudiants bloquent depuis le 16 mars le domaine de Grignon, un domaine de 300 hectares menacé de destruction. Donc ces hectares sont une propriété de l'État et ils pourraient être vendus à des promoteurs immobiliers, ce qui est donc bien loin des promesses du gouvernement d'en finir avec l'artificialisation des sols. Depuis le mardi 16 mars, ce sont des barricades et la mise en place d'un système de restauration collective que les étudiants et étudiantes en agronomie ont organisé pour empêcher l'accès au domaine de Grignon. À 25 minutes de Paris en train, ce site est grand de 291 hectares, dont 121 de terres agricoles. Et il constitue un patrimoine historique et écologique rare. Depuis près de 200 ans, le domaine est un haut lieu pour l'enseignement et la recherche en agronomie. Encore aujourd'hui, il forme chaque année des centaines d'étudiants et étudiantes en première année à AgroParisTech, qui est l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Donc ces hectares sont inscrits au monument historique avec un château du XVIe siècle et d'autres bâtiments qui sont entourés d'écosystèmes forestiers et des zones humides riches en biodiversité. Mais dans l'appel d'offres, l'absence de toute référence à la transition écologique nous invite à penser que le terrain va pas, va être vendu. Et en 2015, le ministère de l'Agriculture a décidé de déménager donc AgroParisTech à Saclay, qui est à environ 35 km de Grignon, en vue d'en faire avec d'autres écoles un pôle de compétitivité de l'enseignement supérieur et de la recherche renommé à l'international. Cette mise en vente par l'État a pour conséquence donc la destruction des terres dont on parlait juste avant, qui sont d'une fertilité exceptionnelle apparemment. Malgré le désaccord de la grande majorité de la communauté de l'établissement, le conseil d'administration et les étudiants et les étudiantes, la décision de vendre Grignon a quand même été actée. Et c'est les sociétés Alterea et Grand Paris Aménagement qui figurent parmi les acheteurs. Une alternative existe avec le projet Grignon 2026 qui est porté par la communauté de communes de Tiverval-Grignon, là où, donc le lieu où se situe l'établissement scolaire. Il vise à créer un centre d'éducation et d'innovation dédié à l'agroécologie et ouvert à tous et toutes. Mais selon les étudiants et les étudiantes qui en luttent, l'orientation de l'appel d'offres laisse de maigres chances à ce projet de l'emporter parce que dans les critères de sélection, il n'y a pas du tout, on ne parle pas d'agronomie ni de transition écologique. Alors que la décision de vente du site doit aboutir le 26 mars, avec la sélection de l'acheteur final, les étudiants et les étudiantes ont donc décidé en Assemblée Générale le 14 mars de lancer un blocage pour se faire entendre des ministères de l'Agriculture et des Finances. Ils dénoncent notamment une absence totale de consultation des étudiants et étudiantes, des chercheurs, des professeurs, du personnel AgroTech Paris et des habitants-habitantes de la commune par rapport au rachat du site. Alors que ce patrimoine public d'une grande richesse écologique, historique et culturelle est menacé d'être cédé à des promoteurs immobiliers, le collectif appelle à se mobiliser pour garantir à ce site un avenir désirable.
Et alors là, on vous avait promis une chronique des vitrines brisées. On va la garder pour la fin, histoire d'être sûr de l'avoir le temps de la faire de façon qualitative. Et du coup, on passe tout de suite à l'international.
And now in the Canu Info.
Rubrique international. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Et alors, du coup, en Suisse, on avait déjà parlé d'une ZAD qui s'était montée, qui avait vu le jour en octobre 2020. Et c'est donc, je le disais en Suisse, que des militants et des militantes occupent la colline du Mormont à Éclepan, qui, si je ne dis pas de bêtises, est dans le canton de Vaud. Et c'est là-bas qu'une multinationale Holcim et Lafarge veulent s'implanter pour extraire plus de béton et détruire le lieu et son écosystème au passage. Les militants et militantes, regroupés sous le nom des Orchidées, y ont bâti un petit village de cabanes, baptisé donc la ZAD de la colline. Le béton est très polluant et le gouvernement n'a aucun plan pour réduire son utilisation. Au contraire, il agrandit même les carrières. On se souvient aussi que Holcim et Lafarge sont des entreprises extrêmement polluantes qui n'hésitent pas à détruire l'environnement, mais qui n'hésitent pas non plus à nier totalement les droits sociaux de leurs travailleurs et travailleuses, en plus d'être impliquées dans la vente d'armes à des terroristes, etc. etc. Malgré toutes leurs grèves, manifestations, pétitions et demandes, le canton de Vaud persiste à ne rien changer. Il y a toujours plus de béton là-bas et toujours plus de CO2 dans les airs. En plus de ça, après ces 5 mois d'occupation, donc depuis octobre, les plaintes de Lafarge et Holcim ont finalement abouti et la justice lausannoise a décidé d'évacuer. La ZAD est sous la menace de l'évacuation, d'une évacuation pour la fin du mois de mars. Clairement, la justice vaudoise cherche à dépolitiser l'occupation pour justifier l'expulsion. On relaie alors l'appel à soutien pour cette ZAD et le rendez-vous c'est le 26 mars à 17h15 sur la place du Château à Lausanne.
Et du coup, bah, une fois que vous êtes à Lausanne, vendredi soir, vous avez le temps de rentrer dardard. Là-bas, avant le couvre-feu, c'est chaud, mais vous pouvez partir. On remarque qu'en Suisse, il n'y a pas de couvre-feu, il dit n'importe quoi. Mais du coup, pour rentrer pour la manif, samedi prochain. Mais du coup, moi, je ne vais pas vous parler de la Suisse, je vais vous parler de la Grèce. Parce qu'en Grèce, la population subit un confinement strict doublé d'un couvre-feu depuis novembre. Et en fait, dans le même temps, de larges mobilisations contre une offensive sécuritaire du gouvernement, contre les violences policières et en soutien aux personnes victimes de ces violences ont traversé le pays. La situation est plus qu'explosive. En fait, en Grèce, du coup, le Covid a fait à peu près 6500 morts et il y a environ 3000 cas par jour qui sont comptés. Mais ça arrive dans... Parce que vous me direz, c'est pas beaucoup 6500 morts au regard des chiffres qu'on peut connaître en France. Mais ça arrive dans un pays au système de santé démantelé du coup par l'application des mesures austéritaires depuis 2010. On se rappelle, mesures austéritaires qui sont demandées par l'Union européenne et donc notamment par la France. Et du coup, ces mesures d'austérité... elles attaquent aussi le secteur de la santé primaire, secondaire, mais aussi pharmaceutique. Et du coup, ce qui se passe, c'est que c'était déjà des hôpitaux qui étaient à bout de souffle et qui, dans le cadre de cette crise sanitaire, se retrouvent complètement démantelés. En Grèce, il y a depuis le 7 novembre un confinement ainsi qu'un couvre-feu à 21h en semaine et à 19h le week-end. Ça fait du coup plus d'un an que la vie des Grecs est à l'arrêt et se résume à sortir travailler et rentrer chez elles et eux après le travail. Alors même que dans le même temps, le Premier ministre, bien nommé Kyriakos Mitsotakis... Je recommence. Kyriakos Mitsotakis, a priori, aura brisé le confinement deux fois. Bon, à mon avis, les journaux sont au courant que de deux fois. Une fois pour se balader à vélo et l'autre pour aller dîner sur une île en compagnie d'une plus de trentaine de personnes, mais aucune sanction ne semble avoir été prise à son encontre. Et donc, dans le même temps, la campagne de vaccination, qui du coup sera un peu la seule porte de sortie de la crise, tarde à se mettre en route. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a que 2 à 3% de la population qui a été vaccinée, alors même que le gouvernement avait promis de vacciner toute la population d'ici à fin juin. Donc face à cette situation, les hospitaliers grecs crient au secours et dénoncent les politiques d'austérité ainsi que les conditions insoutenables dans lesquelles ils sont obligés de travailler. Ils appelaient d'ailleurs à une mobilisation le 17 mars, revendiquant la réquisition du secteur privé de la santé sans compensation pour les propriétaires des cliniques, la titularisation de tous les contrats précaires qui bossent à l'hôpital et l'embauche massive de personnel hospitalier. Et donc du coup, pendant ce temps-là, le Premier ministre Mitsotakis, il poursuit sa ligne politique du fric pour l'hôpital. Du fric pour les flics. Et oui, parce que c'est dans ce contexte que le gouvernement, il profite au contraire, lui, de la crise sanitaire pour faire passer des lois antisociales et autoritaires. Alors, du coup, et oui, parce qu'en même temps qu'il y a la crise sanitaire, le gouvernement, lui, ce qu'il demande, c'est l'augmentation de la durée du service militaire qui est obligatoire dans le pays, qui passe du coup de 9 mois à 12 mois. Donc ça, c'est une mesure qui est complètement autoritaire et qui vise que à répondre à des intérêts militaires de la Grèce. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte de guerre froide avec la Turquie, parce qu'il y a eu la découverte de gisements gaziers. Et du coup, la Grèce a besoin d'un peu plus de militaires pour assurer la possession de ces gisements gaziers. Et alors que c'est complètement idiot et irresponsable d'augmenter la durée du service militaire, parce que les camps militaires, c'est pas forcément l'endroit qui est le connu pour être le plus safe d'un point de vue de contamination. Alors, ce qui occupe particulièrement les jeunes militants et militantes grecs, c'est surtout une autre loi qui a un caractère autoritaire. C'est l'instauration d'une police spéciale habilitée à patrouiller dans les campus universitaires. Cette police spéciale sera constituée de 1000 policiers munis de matraques et de spray des bombes lacrymo, quoi. Ce projet prévoit aussi de placer des caméras de surveillance et de mettre en place, tenez-vous bien, dans les universités, des conseils disciplinaires où professeurs et policiers pourront discuter ensemble de sanctions en cas d'actes répréhensibles selon eux, des étudiants et des étudiantes. Et alors le pire du pire, c'est que ce projet de loi, il offre 20 millions d'euros par an pour la création de Scorp Police, alors que le budget annuel de l'enseignement supérieur est de 91 millions d'euros. Tout ça pour cette police. Et ça s'inscrit dans la lignée d'une politique sécuritaire du gouvernement Mitsotakis qui, depuis le début de son mandat, a renforcé la politique anti-migratoire de la Grèce, a renforcé les effectifs de police et de l'armée, a expulsé de nombreux squats de militants et de militantes anarchistes et de migrants et de migrantes dans Athènes. Et alors déjà, du coup, il faut se rappeler que du coup, en août 2019, le gouvernement avait déjà aboli la loi de l'asile universitaire. Ça, c'était une loi qui avait été mise en place suite à la révolution grecque dans les années 70 qui avait été promulguée du coup parce qu'il y avait eu un soulèvement du coup qui était un peu le début de cette révolution au sein de l'école polytechnique, et l'armée grecque de la junte militaire était rentrée dans l'école polytechnique faisant 24 morts, et du coup c'est pour ça qu'il y avait une loi d'asile universitaire en Grèce qui interdisait aux forces de police de rentrer au sein de l'université. Et il y a de la même façon encore un autre projet de loi qui prévoit de censurer toutes les musiques faisant passer des messages de haine, des messages politiques ou incitant au terrorisme, et que du coup ça pourrait condamner l'artiste à 3 ans de prison. Et du coup il y a énormément de manifestations dans tout le pays, de Athènes, en Crète, en Macédoine et compagnie. Et du coup dans toutes ces mobilisations il y a des violences policières. Et du coup il y a un discours de plus en plus fort de dénonciation de la brutalité policière. Donc on a par exemple 6 personnes qui ont été hospitalisées, 23 personnes arrêtées après avoir organisé une marche le week-end dernier, et un grand nombre d'entre elles ont reçu une amende de 900 euros. Ce qui a plus choqué, c'est les violences à l'encontre d'un jeune homme le 7 mars à Neuilly-sur-Mini, parce que alors que ce dernier voulait demander à des flics pourquoi il mettait une amende de 300 euros à une famille assise sur un banc, ces derniers l'ont jeté au sol, matraqué, frappé. Et le jeune homme aurait crié à plusieurs reprises « Ponao », ça veut dire « j'ai mal ». Et ce cri a été repris largement dans les manifestations, dans lesquelles de nombreuses pancartes affichaient ce « Ponao ». Et du coup, ça rappelle le « I can't breathe » de George Floyd. Donc après, il y a des milliers de vidéos de violences policières avec des flics qui disent en avant, on va les buter, des commentaires sur Facebook, attendez qu'on commence à vous tirer dessus, le sang va sortir de vos crânes et compagnie. Et du coup, en définitive, la situation en Grèce est plus qu'explosive. Le gouvernement se prépare à de potentiels affrontements sur le terrain de la lutte des classes. Les mobilisations actuelles sont déjà largement réprimées par les forces de l'ordre, d'autant plus que le contexte sanitaire, comme en France, donne un prétexte au gouvernement pour réprimer encore plus largement. Pour donner un exemple, les amendes pour entrave au confinement, par ailleurs, sont d'un montant de 300 balles, alors même que le SMIC grec est de 758 euros par mois. Donc voilà, de grosses mobilisations en Grèce. On imagine que ça va continuer et on espère que le gouvernement va finir par reculer, ou en tout cas que nos copains et nos copines grecques vont s'en sortir.
Canu Info du vendredi.
Voilà le moment tant attendu, les vitrines brisées, cette grande rubrique du Canu Info du vendredi. On a 10 minutes pour la faire, attention, faites gaffe, on est prêts et prêtes.
Alors la première, c'est à Blois, donc j'ai aucune idée de où c'est, je sais pas où c'est Blois. Mais
Vers Tours.
Et du coup, là-bas, il y avait des barricades, tirs de mortier, d'artifice, véhicules incendiés, établissements dégradés. Dans les quartiers nord de Blois, le début de la nuit de mardi à mercredi a bel et bien été rythmé par les violences urbaines. Un accident survenu sur l'avenue de France peu avant 19h, mardi, selon la Nouvelle République, a mis le feu aux poudres. Et donc mardi vers 18h30, un véhicule arrêté par la BAC prend la fuite, grille au feu rouge et percute 2 autres voitures. Le conducteur s'enfuit et ses 2 passagers de 15 et 18 ans, blessés en urgence absolue, sont transportés à l'hôpital de Tours, c'est près de Tours, pour l'un et de Blois pour l'autre. Et vers 23h, une station service Avia a été incendiée, puis un camion de livraison a été attaqué par des émeutiers. L'un d'eux l'a lancé à vive allure vers les policiers, sautant juste avant le choc. Les policiers ont fait feu et des renforts policiers ont été sollicités, ainsi que les bagues de Tours, Orléans et du Mans, et même l'hélicoptère de la gendarmerie nationale basé à Tours, un escadron de la gendarmerie mobile de Paris et le GIGN.
Et à Sens, dans l'Yonne. Et ouais, c'est pareil, c'est génial en plus parce qu'on apprend plein de trucs sur la géographie. Les flics de tous les services en ont pris pour leur grade samedi 13 mars. Ah bah non, bah pas du tout, vendredi soir dans le quartier des Chaillons. Une quarantaine d'individus, dites-vous, ont mis le feu à des poubelles, des véhicules et vandalisé un salon de coiffure. Et du coup, une vingtaine de flics, d'agents municipaux et de gendarmes du PSIG, ça c'est un truc formidable de la campagne, ça serait les gendarmes, la BAC de la campagne, qui sont intervenus. Un policier municipal a été légèrement blessé et deux policiers nationaux aussi.
Et après, c'est à Nîmes, un feu d'artifice anti-keuf. La scène s'est déroulée le mercredi soir vers 19h20, près du Carré Saint-Dominique, dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon à Nîmes. Selon les informations de France Bleu Gare-Lozère, un fourgon de CRS qui patrouillait dans le secteur a été la cible de tirs de mortier.
Et pendant ce temps-là, dans le Loiret, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, ça ne s'invente pas, et ben c'est l'ouverture de la chasse aux poulets municipaux. Une voiture de la police municipale, alors c'est près d'Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle, si jamais vous voulez faire un petit tour, a été attaquée le 3 mars. Aucun policier n'a été blessé, d'autant même que les flics n'étaient même pas dans leur bagnole, et ils étaient en train de faire une ronde dans l'école à côté. Qu'est-ce qui se passe à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine ?
Y a-t-il une guerre entre bandes ? Ben non, une guerre contre les flics. Dans une ambiance électrique, le mardi soir toujours, un policier aurait tiré plusieurs coups de feu en l'air lors d'un affrontement avec un groupe de jeunes gens, dont certains étaient armés de barres de fer selon les premières informations recueillies, et un autre blessé. Alors à l'origine de ce coup de chaud, un banal contrôle de police. La brigade anticriminalité s'apprêtait à contrôler deux personnes qui étaient montées sur un scooter. Il y en a un qui s'est enfui au guidon et en direction de Cachan, et l'autre à pied du côté de Bagneux. La BAC le suit mais le perd de vue. Arrivé dans la cité de l'Abbé Grégoire, plus précisément au square Montesquieu, les policiers se seraient trouvés face à une quinzaine ou une vingtaine de personnes armées, donc de barres de fer pour certaines. Rapidement, c'est un groupe composé d'une quarantaine d'individus selon une source judiciaire que les policiers ont été confrontés. Deux d'entre eux ont été pris à partie jusqu'à ce que l'un reçoive des coups.
Voilà. Bah non. Vas-y encore.
Ah
non, c'est moi.
C'est moi.
À l'intérieur des prisons, oui. Alors à l'intérieur des prisons. Et là, ça se passe beaucoup plus proche de chez nous, la Val-à-Angier, petite ville très sympathique de la Loire, au début du Pilat. À la Val-à-Angier, il y a un CER. Un CER, c'est un centre éducatif renforcé. C'est un endroit où, quand il y a un juge des enfants qui décide que tel ou tel jeune il n'est pas assez sage, on l'envoie là-bas. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a eu des sapeurs-pompiers qui ont pris en charge un des éducateurs du centre parce qu'il avait été frappé par les jeunes et un autre éducateur qui, lui, était un petit peu plus en état de choc. L'alerte a été donnée parce que, du coup, c'est des jeunes qui s'en sont rebellés. Les flics sont vite arrivés, tout s'est bien passé, en tout cas pour les éducateurs, pour les jeunes, c'est moins sûr. Pourquoi ? Parce que les jeunes, lors de d'une balade mercredi après-midi, ont fugué, ils n'ont pas dû vouloir aller jusqu'où ce que les éducateurs voulaient qu'ils aillent, ils sont allés se balader un peu plus loin. Et du coup, à leur retour, l'un des éducateurs a décidé de les priver de leur pause cigarette pour les punir. Gros objectif éducatif. Le lien entre pas rentrer après la balade et ne plus avoir sa cigarette. Et à partir de là, les choses se sont envenimées, à tel point que même un véhicule appartenant à la structure a été incendié, deux autres ont été dégradés. Et alors attention, mon préféré, à Nanterre, on s'est rigolé. À Nanterre, un jeune a volé un tractopelle. De toute évidence, il avait décidé de ne pas faire dans la dentelle. Il a quel âge ce jeune ? Il a 15 ans. L'alerte a été donnée vers minuit et demi quand des riverains du quartier du Chemin de Lille ont vu surgir un engin de chantier au pied de leur immeuble. Bien sûr, les riverains ont appelé les decks. Les decks sont arrivés, ils ont réussi à en attraper un des deux. Et du coup, qu'est-ce qu'il faisait avec son tractopelle? Eh ben, il était en train d'essayer d'attaquer une caméra de vidéo de surveillance dont l'œil surveillait une des parties de la rue où il était. Ça a l'air pas mal. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un petit tractopelle pour faire ce genre de choses.
Et on fait quoi maintenant?
En premier est une personne qui n'a pas mangé. En second, et oui, en russe, et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est
l'agenda.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Mais qu'est-ce qu'on fait?
Alors, samedi midi, il y a un repas de soutien à l'occupation du TNP et de l'Opéra à l'annexe de l'ECG, donc qui est au 27 rue Salomon Reynache.
C'est dans le 7e arrondissement. Et après, on peut aller au Printemps des Libertés. Donc, c'est la marche contre la loi de sécurité globale. Et ça se passe à 14h, place des Gratiers à la Villeurbanne, devant le TNP.
Et ensuite, il y a la marche de soutien aux Kurdes à 15h, rendez-vous 15h à Bellecour.
Et dimanche, il y a la marche contre l'islamophobie à 15h à Bellecour aussi. Et du coup, vendredi prochain,
il y a un week-end donc, de mobilisation.
Oui, avec une manif contre le logement le samedi. Mais le vendredi, surtout, on peut aller...
Ah oui, on peut aller à Lausanne pour soutenir la colline de Éclepin.
Allez, on a eu un petit appel.
Canyon Info du vendredi. Je m'appelle Margot, j'ai 3 ans et je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la radio la plus brillante.
Et du coup, ACAB, ça veut dire avec la cale, on allume les bâtiments vides.
Et voilà, le Canu Info du vendredi, c'est terminé. Il nous reste 50 secondes pour dire que tout de suite, ça va être Noise Pollution, cette grande émission de Techno Metal Tech qui nous régale les oreilles de Balmusette tous les vendredis soirs. On vous remercie pour ce temps passé ensemble. Le Canu Info du vendredi revient la semaine prochaine. Et d'ici là, paniquez pas, niquez tout.